Quelle différence entre un D-book et un démon? Alors, qu'est-ce qu'on fait contre cela? Il y a des choses à faire. Et normalement, si on fait cela, tout va très bien. Et les gens qui ont vu ça racontent que tout d'un coup, la main s'enfle, le petit doigt s'enfle, et ping, tout d'un coup, ça sort. Ça fait un trou dans la fenêtre, et hop, et le D-book, il est parti. Bonjour Didier pour la Refreshema de Elisheva Batsara Bezrat Hashem. La question de Eliaou.
C'est quoi la différence entre un D-book et un démon?
Quelle est la différence entre un D-book et un démon? Ok. Le Talmud ne parle pas de D-bookim, mais il parle beaucoup de démons. J'explique en deux mots ce que c'est, chacune de ces choses-là. Le démon, bon, ce sont des créatures impures, qui n'ont pas de corps physique, ils ont un corps spirituel. Et très souvent, ces démons sont créés par le Zer al-Batala, par la semence en vain. Quelqu'un qui fait de la semence en vain, volontaire, ou même involontaire, mais souvent plus volontaire, ça crée cette semence peut créer des êtres humains. Alors, elle les crée aussi, mais vu qu'il n'y a pas eu de femme avec qui on a pu créer un être humain, donc ça crée un être vivant sans corps. Et vu que cette chose-là est très très interdite, donc la réalité de cette entité, elle est extrêmement impure, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Shulchan Aruch, c'est le code des lois juives, il parle de cela, il dit qu'on a le droit de, par exemple, quelqu'un il a perdu quelque chose, alors il peut demander à des démons, ils vont aller voir où se trouve la chose, on peut avoir recours à eux. Mais il conclut quelqu'un qui a pitié de lui-même, qui s'éloigne de Dieu parce qu'on ne finit jamais bien. C'est comme la mafia. Ils te rendent service, la mafia, mais après les factures qu'il faut payer, c'est sortir du club, c'est impossible, d'accord? C'est très dangereux. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Et on va parler après un peu comment faire pour éviter que ça arrive, ce genre de choses-là. Parce que d'abord, pas de psycho. C'est très très rare aujourd'hui qu'on entend parler d'histoire de démons. On a eu quelques cas ici à la Yeshiva. Alors, soit les gens qui ont vécu cela, ils étaient un peu trucs. Mais bon, il y a quelques cas où ça a l'air quand même vrai, d'accord? Ça peut arriver. Mais j'expliquais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Et c'est mieux que ça n'arrive pas et qu'on ne faut pas non plus rentrer en psychose ou ce genre de choses, parce que plus on y pense, plus ça peut amener, d'accord? Le D-book, qu'est-ce que c'est que le D-book? Le D-book, on n'en parle pas dans le Talmud, mais c'est une chose dont parlent les livres de mystique juive. Et l'histoire juive raconte des cas de D-bookim. Le D-book, qu'est-ce que c'est? C'est une âme juive, pécheresse, qui a fait des péchés. Quand elle meurt, elle n'a pas le droit de rentrer en enfer. Rentrer en enfer, c'est un droit. Pourquoi? Parce que quand on sort de l'enfer, on va au paradis. Donc c'est l'antichambre désagréable et difficile qui te permet de rentrer au paradis. Parce que pour rentrer au paradis, il faut être propre. Mais vu qu'il est sale, on est sale de péché, donc on va en enfer pour être nettoyé des péchés. Et quand tu rentres là-bas, c'est certain qu'après tu vas au paradis. Mais pas tout le monde arrive en enfer. Il y a beaucoup de sortes de purgatoires avant. Ça peut être de Gilgoul, revenir en réincarnation. Ça peut être Kafakela. Kafakela, c'est que ton âme elle est projetée d'un endroit à l'autre dans le monde. Et le cas des D-bookim, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est poursuivi par les démons qu'il a créés. Notamment, comme je disais à la Batala, les péchés sexuels, c'est les choses les plus graves qu'il y a dans la Torah. Donc il crée par cela toutes sortes de réalités spirituelles négatives qui veulent le bouffer. Ils disent « Papa, 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 tu me crées, d'accord ?» D'accord, comme des piranhas, ils veulent le bouffer. Et lui, il fuit. Et pour ce... Parce que ces entités lui en veulent de l'avoir créé. D'accord, tu m'as créé sans corps, tout ça. Et... Alors, pour se protéger de ces réalités, alors il se réfugie dans un corps, le corps de quelqu'un. Et là, les démons, tous ces démons-là n'ont pas le droit, toutes ces âmes, les démons qui poursuivent l'âme n'ont pas le droit d'aller embêter le type, d'accord? On va dire, tu as Shimon, tu as Rouven. Shimon a fait des péchés, est poursuivi par les péchés qu'il a fait, par les démons. Et il voit Rouven, Shimon rentre, son âme rentre dans le corps de Rouven, d'accord? Et Rouven, qui était un type normal, tout d'un coup, tic, il y a quelqu'un qui rentre en lui. Et vu que ce type qui est rentré dans lui, on avait dit c'était Shimon, d'accord, c'est un type très impur, faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs parties d'âme. Des fois, tu as des parties d'âme qui sont pures, qui peuvent rentrer au paradis, puis la partie mauvaise en toi, elle reste et elle doit purger sa peine. Alors, cette partie mauvaise, elle est très mauvaise, elle rentre dans le type. Et le type, qui est un type normal, tout d'un coup, il se met à parler des insanités, des trucs. Et vu que c'est une âme, donc elle voit des choses. Alors, quelqu'un vient, lui dit, mais de quoi tu parles? T'as vu ce que t'as fait cette nuit, toi? Et la semaine passée, avec la bonne femme là-bas, il commence à déblatérer comme ça en public, toutes les saletés que tous les gens ont fait. Alors, les gens, ils ont super peur. Et la pauvre personne en qui le dibou, qu'on appelle ça, est entrée, d'accord, elle souffre énormément. Alors, c'est pas pour rien que ce dibou est rentré en elle. D'habitude, c'est la personne a dû faire un péché qui a permis à l'âme de Shimon donc de rentrer dans le corps de Rouven. Par exemple, quelqu'un qui mange ou boit sans bracha. Alors, quand il prend l'aliment ou la boisson, tac, en même temps, tric, l'âme elle rentre et hop, c'est rentré en lui. Ou quelqu'un qui se met en grande colère. En grande colère, ton âme pure part et après il y a un autre qui peut rentrer à la place et lui vient à la place. Des choses de ce genre-là. Alors, il y a eu un cas du temps du Hafetz Chaim. Le grand, grand rabbin d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale, il est décédé en 1933, à Radin. Et il y a eu un cas d'une jeune fille qui avait un dibouk. C'était très, très clair. Alors, Rafet Kram n'a pas voulu venir. Et il a envoyé son élève, le rabbe Erhan Wasserman, qui était un des grands de Torah. Et il a conjuré de quitter. Alors, c'est plusieurs étapes, etc. Mais à la fin, on fait en sorte que cette âme quitte le corps de la personne sans faire de dégâts. Parce que quand l'âme quitte, elle peut faire un dégât. Si par exemple elle sort par l'œil, ben elle lui crève l'œil. Si elle sort par l'oreille, elle peut lui crever le tympan. D'accord ? On nous dit qu'elle sorte du petit doigt entre l'ongle et la chair. Et les gens qui ont vu ça racontent que tout à coup, la main s'enfle, le petit doigt s'enfle, et ping, tout à coup ça sort, ça fait un trou dans la fenêtre, et hop, et le dibouk il est parti. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu des cas ici, il y a une vingtaine d'années ici en Israël aussi. On ne sait pas si c'était une mise en scène ou pas. Alors les kabbalistes sont venus, ils ont fait des tikkunim. La personne disait, c'était une femme, elle parlait avec une voix d'homme. Elle disait, je veux une réparation. Et alors de nouveau, ils disaient des insanités, des trucs comme ça, etc., etc. Bon, les kabbalistes se sont réunis ensemble, ils font un tikkun pour que l'âme puisse quitter le corps. Et voilà. Donc pour pas qu'il y ait... Alors c'est très rare. Franchement, aujourd'hui, il n'y a plus de choses pareilles, très très rarement. Donc, pas besoin de rentrer en psychose à cause de cela. Faire attention de ne pas faire de péché, de ne pas se mettre en colère, de faire les brochot avant et après les consommations, etc. En ce qui concerne les démons, alors la chose à faire est la chose suivante. Et ça, je mets l'accent là-dessus parce que c'est important et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Ce n'est pas toujours que le démon il arrive, du coup tu le vois avec sa tête. Il y a l'Agmara dans traité Brachot, une petite parenthèse, d'accord, traité Brachot, page 6, si je me souviens bien, dit comment on peut faire pour voir des démons. Il faut prendre
le placenta,
merci, exactement. Prendre le placenta, c'est quand un bébé dans le ventre, alors il y a une sorte de morceau de chair qui est comme la main à peu près comme ça, d'où le cordon ombilical il sort et va dans le ventre du bébé, et c'est par cela que le bébé est nourri. Et ce placenta, il est collé à la paroi de l'utérus, et par là, toute la nourriture vient. Alors, il faut prendre un placenta d'un chat noir aîné, fils de chat noir d'aîné, une chatte noire, placenta d'une chatte noire, fille, attends, si c'est un aîné, ouais, alors aîné, fille d'une chatte noire aînée, et on brûle le placenta et on prend les cendres, on met dans les yeux. D'accord? Il ne faut pas faire ça. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rav Bibi, le fils de Abaye, Rav Bibi Bar Abaye. Il a dit, moi je vais faire ça. Il a fait ça, il a vu des démons, et c'est tellement affreux, horrible, terrible, qu'il est tombé mal, il a failli mourir. D'accord? Il a fait une dépression grave, ou une crise cardiaque, je ne sais pas, il a failli mourir. Et les rabbins ont beaucoup prié, et il a guéri. Et avec le mythe d'être Rabbi Bibi, Rabbi Barabaye. Donc nous, on ne doit pas faire ce genre de choses-là. Mais donc, pour dire que ça peut arriver qu'un... Se peut que quand, par exemple, quelqu'un doit mourir de façon non agréable, alors Dieu lui envoie un démon, le type, il voit le démon, il fait une crise cardiaque et il meurt. Ça se peut tout à fait. D'accord ? Ça se peut que c'est un des moyens que les gens meurent de crise cardiaque, notamment dans les toilettes. Mais c'est rare. Nous, on ne connaît pas trop de cas de gens qui ont survécu à cela et qui ont dit « j'ai vu un démon ». D'accord ? Par contre, ils peuvent venir et faire beaucoup de malheur à quelqu'un, embêter. Alors qu'est-ce qu'on fait contre cela? Il y a des choses à faire. Et normalement, si on fait cela, tout va très bien. D'abord, mettre des mezouzotes cachères dans toutes les portes où il faut mettre dans la maison. Ensuite, quoi cachère? Parce qu'il y a beaucoup de mezouzotes qui ne sont pas cachères. D'accord? Donc il faut payer le prix comme il faut bien. Ensuite, nous, les Sfaradim, on les met droites, pas penchées. Il y en a qui ont la coutume d'Afrique du Nord à le mettre penché, ceux qui ont la coutume qui continue comme ça. Mais le Sfaradim, d'après tous les poskim, Sfaradim ici en Israël, il faut la mettre droite. Et quand on s'est penché, on n'est pas rendu quitte. Donc droite. Ensuite, si on a une coutume qui venait de nos ancêtres, par exemple les Marocains, ils avaient comme ça, alors ils aiment bien continuer les coutumes marocaines, même au Canada ou même à Paris. Alors ils peuvent continuer, ils ont un avis sur lequel compter. C'est mieux de faire comme les poskim Sfaradim, les Sfaradim, qui est de la mettre droite. Maintenant, les gens ne savent pas cela. Si la mezouza, elle est plus bas que le tiers du haut, on va dire, je prends maintenant la porte, d'accord? La porte, elle fait 210 cm de haut, d'accord? Alors, deux tiers, c'est 140 cm. Si un morceau de la mezouza descend plus bas que 140, c'est pas soul, ça vaut rien du tout. C'est comme si tu n'as rien fait. Alors, qu'est-ce que font les gens? Ils la mettent plus haut, ils la mettent à 150, mais là aussi, c'est pas bien. C'est valable, la mezouza, elle est faite, mais bediabat, ça veut dire... A posteriori, c'est pas bien fait. Si on veut faire la mitzvah comme il faut bien, il faut que le parchemin, pas la boîte dans laquelle tu mets la mezouza, le parchemin lui-même, le bas du parchemin soit exactement à 140 cm du sol. Pas 140, deux tiers de la hauteur. Si c'est 210, 140. Si c'est 240, c'est combien? 150, c'est ça? Non. Vous ferez le calcul, deux tiers, d'accord? Le petit appareil, c'est pas compliqué.
Par contre, je pas deux tiers.
Hein? Je n'entends pas. En partant du bas, deux tiers de la hauteur de la porte, d'accord, jusqu'au linteau. Pas jusqu'au plafond, jusqu'au linteau. Une porte, c'est faite avec deux poteaux et un linteau. D'accord? Là, tu mets la mezouza comme il faut, droite, cachère, exactement où il faut. C'est une faculté de protection extraordinaire. C'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah. La mitzvah, parce que Dieu a ordonné qu'on se rappelle de Dieu chaque fois dans la maison, quand on rentre, quand on sort, c'est ça la mitzvah. Mais en plus, c'est une super faculté de protection. Maintenant, une chose qui est super, un peu plus importante. Quand on rentre dans une nouvelle maison, on fait un tikkun bayit, réparation de la maison. C'est certains textes à lire qui font fuir toutes les forces négatives de la maison. Même si auparavant il y avait un grand sadique qui était dans la maison, des religieux, des gens très très bien, on fait ça quand même. Alors, quels sont ces textes-là? Ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire, on leur enverra. D'accord? Ces textes en hébreu. Il faut prendre 10 personnes si possible et on dispatche. Parce que si tout le monde lit, ça prend quand même une petite heure ou trois quarts d'heure, d'accord? Donc les gens n'ont pas le temps. Donc on dispatche la lecture de ces textes-là entre les 10 personnes. 10 hommes religieux, pratiquants, et lisent cela. Et comme ça, c'est un truc spécial qui fait partir toutes les entités négatives de la maison. Plus forte raison si les gens qui bêtaient avant étaient des gens non pratiquants, des personnes qui n'étaient pas des sadikim, etc. C'est certain qu'il y a beaucoup de forces négatives dans la maison, donc il faut les faire partir. Et si on ne fait pas ça, ça peut être dangereux. Quels sont ces textes? C'est, il y a une petite partie de Zohar, un petit Rambam, ça c'est une page. L'essentiel, c'est trois traités de la Mishnah. Traité Brachot, traité Betza, mais qu'on appelle Yom Tov, et traité Tamid. Si on prend les initiales de ces trois traités, ça fait Bait, maison. Donc on lit les Mishnayot dont le nom des traités forme le mot maison, et comme ça, tout le monde part. On donne un peu d'argent de Sedaka. Il y en a Rabbi Sambachol, quand il a déménagé, il a pris aussi un chochet, un égorgeur rituel, avec un poulet, il a égorgé le poulet aussi. D'accord? Histoire que... Et il y en a, Baba Salé faisait plusieurs fois. Il faisait une fois, après un mois, et on refait encore un tikkun bayit, pour être certain qu'il n'y a aucune force négative qui vienne. J'ai parlé hier à quelqu'un, et il m'a dit, c'est un type qui est employé chez nous, en fait, il était malade, et il va mieux, mais il n'arrive pas. D'accord? Pourquoi? Il dit, une fois c'est moi, une fois c'est ses enfants, une fois c'est ma femme, machin, on a cru qu'il y avait ça va mieux, mais tata, sans cesse. Le tikkun bayit t'a fait, il m'a dit, oui, mais je n'ai pas fait bien, c'était pendant le Covid, il n'y avait que 5 personnes qui ont. Alors tu dois reprendre, tu fais avec 10. C'est vrai que s'il n'y a pas 10 personnes, on peut prendre que 3 et le faire, mais ce n'est pas génial. C'est, on va dire, diaval, ça s'appelle. Tu n'as pas le choix, tu fais comme ça. Mais il faut le faire, si possible, faire bien. Et il faut faire bien. On raconte une histoire terrible. Bon, faire bien, c'est avec 10 personnes. Il y avait dans mon collège où j'étudiais, un étudiant de Torah. Et là, que Dieu ne plaise, son fils de 8 ans est mort. Tu vas voir le Rav Ben Sona Bachaoul, tu vas le voir. Le Rav Ben Sona lui dit, première question, Tu as fait Tikkun Bait, oui ou non? Il lui a dit non. Aujourd'hui, tu fais. Le Rav Ruach HaKodesh, il voyait les choses. Il a tout de suite vu qu'il y a une force négative qui a tué ton fils dans la maison. Donc, c'est pas blablabla comme ça. Ça peut être dangereux. Donc, on fait Tikkun Bait, si possible, le jour même, le déménagement, tu es encore dans les meubles, tout ça, les cartons, tu fais. Sinon, c'est difficile, ta femme ne peut pas, alors attends un peu, 2-3 jours, etc. Pas attendre trop, d'accord? Même si on est en location, aussi on le fait. Si on est en propriété, encore plus. Mais même en location, il faut le faire parce qu'on ne joue pas avec ce genre de choses.
Même si la maison est neuve?
Même si la maison, pardon?
Elle est neuve?
Encore plus, elle est neuve. Encore plus parce qu'il y a beaucoup de forces négatives quand même.
Ça consiste à quoi, le Tikkun Bait?
Pardon?
Ça consiste à quoi, ce qui est cool?
Alors j'expliquais, on lit, en gros, on lit trois traités de la Mishnah qui sont les traités Brachot, Betsa qu'on appelle Yom Tov et Tamid. Plus un petit texte de Rambam, un peu de Zohar, et voilà. Et après, tous les personnes bénissent l'habitant de la maison, donnent un peu d'argent, c'est d'accord, et voilà.
Avant les meubles, après les meubles?
Quand tu mets les meubles dans la maison, il faut déjà mettre les meubles aux autres. Quand tu viens habiter, tu fais le Tikkun Bait.
En premier, il faut mettre les meubles aux autres avant tout.
Dès que tu as des affaires à toi dans la maison, il faut mettre les meubles aux autres. À l'étranger, hors d'Israël, on peut attendre 30 jours. Si tu as signé une location, tant que tu n'as pas mis tes meubles, ça va, tu n'es pas encore obligé. Dès que tu as mis tes meubles, il faut, et en France, à l'étranger, tu as 30 jours. En Israël, dès que tu as mis les meubles, tu as l'obligation sur place de mettre la mezouza avec bracha. Tikkun Bait, c'est bien quand tu arrives, sinon un peu après.
C'est après les mezouzot.
Ouais, mezouzot avant. Parce que mezouzot, chaque seconde, quand il y a une obligation de mettre les mezouzot, chaque seconde que tu n'as pas le mezouzot, tu mevatel la tu annules une loi positive de la Torah. Chaque seconde, c'est important, très important.
Donc ça veut dire que si on doit changer de mezouza, il faut obligatoirement remplacer celle qui est...
C'est dur de remplacer. Si on peut, c'est bien. Il y a en Israël quelques marques de mezouzot, des gens qui prêtent des mezouzot. Donc tu enlèves la tienne, tu vas la donner à un soffer qui va la vérifier, maintenant tu mets une autre. Avec bracha, il faut mettre l'autre. Et quand tu remets la première aussi, s'il y a longtemps qui est passé, il faut remettre la... Si elle est tombée, tu la remets sans bracha. Mais si tu l'as pris chez un soffer, ça a pris un ou deux jours, tu le ramènes, il faut refaire la bracha quand tu mets la mezouza. Voilà, donc on a parlé des bouquets, on a parlé des démons, qu'est-ce qu'on a encore dit là-dessus? Vous avez des questions? Oui.
Et le fait d'étudier, comme je disais, le soir seul, ça pose un problème pour ça ou pas du tout?
Pas du tout. Le fait d'étudier la Torah le soir seul, c'est écrit dans le traité Shabbat, page 119, que la maison dans laquelle il n'y a pas de parole Torah la nuit, elle brûle. Alors c'est bien d'étudier la nuit contre les incendies. C'est une sgoula. D'accord? Ça n'a aucun problème. Ce qui est dangereux, c'est dormir dans le noir. Noir. C'est très rare dans les villes où ça n'existe pas. Tu as des lampadaires partout, il y a partout de la lumière, d'accord? Mais si tu es dans la campagne, et une nuit de Roche-Rodesh, où il n'y a pas de lune, d'accord? Et ou bien tu es dans ta chambre à la maison, mais tu fermes les volets complètement, il n'y a rien qui passe, tout seul c'est dangereux. Ça peut amener les démons. Pas que tu vas redemander un gré comme ça, un gnome qui va te faire peur, d'accord? Une bonne femme. Les démons ont été créés en majorité par le Zera, par la semence en vin. Donc c'est là qu'ils viennent. Alors eux, c'est un peu leur nourriture, d'accord? Eux sont intéressés, ils sont impurs, donc ils veulent de l'impureté. C'est quoi l'impureté? La plus grande impureté, une des plus grandes impuretés, c'est quand un homme, il fait des semences en vin. Donc le démon se déguise en Miss Monde. Extrêmement belle, extrêmement sympathique, elle vient, elle t'embrasse, tout ça, et toi comme un idiot, pic.
Comment on n'est pas bête. On est tout seul dans la chambre est fermée à clé, on est dans le noir.
Quand tu dors, bien sûr quand tu dors, pourquoi je parle maintenant? Quand tu dors, le démon vient déguiser. Tu crois qu'en réalité la bonne femme va venir dans ta chambre, une belle blonde comme ça, tu rêves. Prends tes désirs pour des réalités, mon cher ami. Non, elle vient. Allô, il y a où? Toc toc, c'est moi. C'est fermé à clé. Bah ouvre. Non, c'est pas comme ça. Ça peut arriver aussi à Dieu ne plaise. Mais ça n'a rien à voir avec les démons. D'accord, c'est une bonne femme pécheresse. Mais les démons, ils viennent en rêve, déguisés en femme très belle, aguichante, qui vont tout faire pour nous faire avoir la bataille. Dieu nous en préserve. Pour se protéger de cela. Alors, il faut, avant d'aller dormir, il faut faire le Kriyat Shema Shalamita, donc dire Kriyat Shema, bracha aussi avant, Baruch HaMapil, et après des versets de protection. On dit Birkat Kohanim, le Shabbat Ser Elyon, Anna Bechoach, Elimitar Shishomo, toutes ces choses-là sont des trucs de protection super solides pour empêcher qu'il y ait des démons qui viennent nous voir durant la nuit. Et, bien sûr, les choses à faire. Il faut dormir sur le côté, pas sur le ventre, ni sur le dos. Il ne faut pas avoir proche de sa tête tout type d'habits qui sont plus bas que la ceinture. Ceinture, culotte, pantalon, chaussettes, chaussures. Pas loin, pas proche de la tête, loin, on va dire au moins 50 cm. Pas porter sur soi du fer. Pas s'endormir, on est content de la musique non juive. Et s'endormir avec parole de Torah. Comment tu fais ça, ça doit, il ne doit pas y avoir de problème.
Le
Kriat Shema, il n'est pas pour protéger, il est là pour réparer. Le Rabbin Noari dit que si quelqu'un fait Kriat Shema à Shalom avec beaucoup, beaucoup d'intention, il peut détruire jusqu'à 1125 démons. Maintenant, c'est quoi 1125 démons? Moi, je ne sais pas, quand quelqu'un fait une fois Zerah al-Batala, combien il a créé? Un démon ou un million de démons? On ne sait pas, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est marqué 1125, jusqu'à 1125 démons. Si jamais c'est arrivé, non, il ne faut pas écouter de la musique non juive. En général, ça fait avoir Zerah al-Batala.
Sans parole?
Même sans parole. J'ignore. Je pense que ça va, parce que c'est marqué Shira. Shira, c'est quand les gens y parlent. C'est quand, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais c'est arrivé une pollution nocturne, alors c'est écrit, le Rafrida écrit comme ça, que si le même jour tu vas au mikvé, tu fais tchouva. Parce que la bonne femme n'est pas venue comme ça, t'as pensé, t'as vu, etc. Tu fais tchouva sur les péchés qui ont amené que la femme arrive en rêve, et tu vas faire Zerah al-Batala. Alors le démon qui crée, il est annulé. Tchouva et mikvé. Un mikvé ici à 50 mètres, voilà, c'est sympa, t'as froid, tiède, chaud, tout ce que tu veux en été, en hiver. C'est ouvert des 3h du matin, donc il n'y a aucun problème à y aller le matin. C'est bien. Celui qui peut aller tous les jours au mikvé, c'est bien aussi, ça empêche de faire la batala. Il y en a qui disent 40 jours, celui qui peut aller tous les jours, c'est super. Rabbi Noari a écrit qu'aucune mitzvah peut amener autant de pureté que le mikvé. C'est pas une mitzvah, c'est pas obligatoire. Mais en tant que pureté, c'est ce qui amène le plus de pureté, le mikvé. Des questions encore, messieurs?
C'est vrai qu'on n'a pas le droit de rester seul en dehors de notre ville.
Donc, on peut pas être seul hors de notre ville. Quelqu'un qui est seul dans le noir. Tu es dans la campagne tout seul, dans le désert, mais il fait noir, noir, noir. Ça, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux d'être dans le noir.
Si
la lune, ça va. Si à la lune, ça va. S'il fait tout noir, tout noir, tout noir, tout noir. Et il est seul, c'est dangereux. C'est dangereux. Les démons viennent, c'est tout.
Ils peuvent venir.
Hein? Ouais, c'est le noir, ça a à voir avec les forces du monde, c'est pas. T'as remarqué qu'il y a Yom Kippour, on met pas tout noir, on met tout blanc. D'accord? Il y a une connotation de blanc avec la pureté et de noir avec l'impureté. Elle est réelle. C'est pas une connotation sans sens.
C'est pas obligatoire que forcément les démons vont attaquer.
C'est pas obligatoire. Mais on se met en danger. Pourquoi se mettre en danger?
Et s'il fait tout noir, on est deux.
Ça va. S'il fait tout noir, on est deux, il n'y a aucun problème. On peut dormir les deux aussi, il n'y a aucun problème.
Par rapport au Tikkun Beit, si on part dans une maison de vacances, mais on loue une, par exemple,
non.
Sur Airbnb, etc.
Non. Ah, t'as pas le temps, t'es là quelques jours.
Et même si c'est une maison où il est.
Non, on parle maintenant à quelqu'un qui.
Il n'y a pas de mezouza, il y a.
Non, à mezouza. Alors, à l'étranger, il n'y a pas de problème. En Israël, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème. Des questions?
Pourquoi deux, ça change quelque chose? Il y a plus de force.
Seul, tu es là. La Gemara, elle dit, comment elle dit là-bas, c'est dans le dernier chapitre de Psachim, et un truc qui n'est pas du tout, qui est pas du tout actuel, c'est les Zougot. Du temps des sages du Talmud, ils faisaient très attention de rien faire qui soit des pères. Tu buvais un verre, ça va. Tu bois un deuxième verre, il faut déjà que tu aies le troisième prêt pour qu'il n'y ait pas deux verres, mais trois verres. Donc, ma première question, comment est-ce que les sages d'Israël nous ont institué quatre verres le soir de Pessah, alors que c'est un chiffre pair? Alors, il dit Pessah, c'est différent. La nuit de Pessah, il y a une protection, d'accord? De là, il y a toute une page qui parle, c'est la page 113 là-bas de cela. Et la Gemara dit, ceux qui font attention à cela, alors ça peut lui faire du mal. Ceux qui ne font pas attention, ça fait rien. Donc, nous, on ne fait pas attention, donc ça nous fait rien. Il y a un cas dans le Talmud qui parle que si on est un, on est beaucoup plus vulnérable, si on est deux, moins, et si on est trois, presque plus du tout. Voilà, donc deux personnes qui dorment dans la mort ensemble, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors que Dieu nous protège tous de ce genre de choses, pas rentrer en psychose, voilà, vous me demandez, j'en ai parlé, mais bon, c'est très loin de nous, on est très pragmatique, et Baruch HaShem, on ne voit jamais ce genre de choses-là, on n'en verra pas. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.